vais introduire ce passage de l'Écriture par mon témoignage de mon retour d'Israël et des territoires. Pourquoi je dis cela ? Parce que vous allez voir un petit peu. En janvier, j'étais en Israël. Vous entendez aujourd'hui ce qui s'y passe. Vous savez comment l'Iran est en train d'envoyer des missiles, comment Israël bombarde avec les États-Unis. Et quand nous sommes allés en Israël avec le pasteur Claudio, nous avions l'intention d'aller voir nos frères et sœurs des deux côtés des frontières. On voulait s'assurer que du côté d'Israël, les juifs messianiques vivaient la foi en toute liberté malgré la guerre et comment ils avaient vécu et comment ils vivaient l'après-guerre. Puis on est allé du côté de nos frères arabes israéliens, mais aussi ceux de Cisjordanie, pour voir comment eux aussi avaient vécu non seulement la guerre, mais comment vivaient-ils maintenant la foi des uns avec les autres. Je dois dire que des deux côtés, il y a des souffrances, et vous vous en doutez bien. Non seulement des souffrances, mais le deuil a souvent frappé les familles, d'un côté comme de l'autre, à cause de la guerre. Je me posais une question, c'était de savoir comment aujourd'hui ils arrivaient à vivre en se tendant une main d'association les uns avec les autres. Pas évident. Imaginez un instant, je me suis rappelé quelques années en arrière quand mon grand-père a vu un certain président français et un président allemand se serrer la main pour lier une amitié franco-allemande. Il faisait des bons comme ça. Il disait, ah non, excusez-moi l'expression, il disait, on ne va pas faire amitié et amitié avec les Boches. Voilà ce qu'il disait mon grand-père. Parce qu'il avait vécu la guerre, parce qu'il avait été avec des souffrances, il avait perdu un enfant pendant la guerre. Et il y avait des choses qui étaient difficiles à accepter. Alors imaginez-vous aujourd'hui, dans le contexte d'Israël, entre les Arabes israéliens, les Juifs messianiques et nos frères et sœurs qui sont dans les territoires. C'est très compliqué, très compliqué. Néanmoins, on se rend compte que quand même, Dieu est à l'œuvre d'un côté comme de l'autre. Nous avons rencontré une famille juive messianique qui a perdu son enfant le 7 octobre. Et ils nous ont raconté de quelle manière Dieu avait œuvré, béni, et de quelle manière Dieu leur avait permis de rendre témoignage aux Juifs. Il faut que vous sachiez qu'en Israël, nous avons entre 30 000 et 60 000 Juifs messianiques. Des frères, des sœurs qui ont confessé le nom de Jésus. Alors vous allez me dire, pourquoi cette fourchette aussi grande ? Parce que vous avez des Juifs, comme dans l'Écriture, qui n'ont pas peur de subir la persécution des Juifs orthodoxes, qui ont des églises avec pignon sur rue et qui, parfois, subissent les attaques des Juifs. Ils rentrent dedans, ils empêchent les cultes de se dérouler, ils jettent des cailloux sur les lieux de culte. Ce sont ces Juifs qui n'ont pas peur des représailles. Et puis vous en avez d'autres qui, par secret, continuent de croire que Jésus est leur Messie, mais ne le manifestent pas publiquement. On retrouve ça dans l'Écriture et on retrouve le même contexte aujourd'hui en Israël, d'où la fourchette entre 30 000 et 60 000 de Juifs messianiques. Ils s'organisent, ils ont à cœur l'évangélisation des Juifs, ils travaillent, ils ont même à cœur le peuple druze. On a rencontré un futur pasteur druze aussi, qui va s'occuper un petit peu de l'évangélisation de tous ces villages dans le nord d'Israël. Il faut savoir que c'est le seul converti en Israël. Ils sont insultés, on leur crache dessus, on lui jette des cailloux sur sa maison, mais lui et toute sa famille sont sauvés. Et il veut annoncer l'évangile aux Druzes. Et puis en même temps, on a rencontré Maroun Raeb, un pasteur originaire de Gaza, des chrétiens, et on s'est rendu compte que du côté des territoires, la difficulté s'est accentuée. Pourquoi ? Parce que il y a des années en arrière, il y avait 7% de chrétiens, toutes confessions confondues, dans les territoires. Aujourd'hui, ils atteignent tout juste 1%. Par comparaison, je pourrais vous le présenter comme cela. Quand Israël a été mené en déportation, qui est resté dans le pays ? Les plus pauvres. La plupart de ceux qui étaient là pendant la guerre ont fui le pays. Qui est resté au pays ? Les plus pauvres. Les infirmes, les démunis, les femmes seules. Et le défi de l'Église dans les territoires et des pasteurs qui sont là, c'est de redémarrer quelque chose avec le reste qu'ils ont. Alors derrière ces constats de chaque des côtés des frontières, la question essentielle, c'était mais comment vous arrivez à fonctionner ensemble ? Alors bien sûr qu'il y a, il y a des choses qui sont là. Comment faire quand une famille a perdu son fils, tué par des membres du Hamas. quand elle se retrouve dans la réunion avec des Palestiniens, avec des Arabes. Mais malgré tout, avec la grâce de Dieu, on sent quelque chose qui les pousse à aller les uns vers les autres. Rien n'est gagné, rien n'est facile, mais la volonté commune qu'ils ont et qui leur permet d'envisager un avenir ensemble, c'est qu'ils ont tous le même désir, partager la foi de Jésus aux autres. Ce sont tous des sémites. Et je suis bouleversé quand j'entendais les témoignages des juifs messianiques raconter comment ils ont eu la révélation de Jésus par des rêves, par des visions, par des songes. On a souvent tendance à dire du côté des Maghrébins, des Arabes, c'est comme ça que Dieu se révèle. Mais du côté des Juifs aussi, Dieu se révèle comme ça, par des visions, par des songes, par des rêves, manifestant la gloire de Jésus. Et ils se tournent vers le Seigneur. Et ils confessent devant tous que Jésus est sauvé. Je veux simplement vous donner ce témoignage de ce jeune qui est décédé le 7 octobre parce que son chef de compagnie est venu voir les parents. Je vous épargne les détails. Mais quand il est venu voir ses parents, il a voulu raconter ce qu'une semaine avant être tué, ce fils a dit à toute sa compagnie. C'est des juifs orthodoxes, la plupart dans sa compagnie, avec la kippa. Et il s'est levé, lui le chrétien évangélique, et ils ont l'habitude à tour de rôle de pouvoir dire quelque chose à la compagnie. Et une semaine avant de mourir, il a pris Ésaïe 53 et leur a lu Ésaïe 53. À la lecture d'Ésaïe 53, ceux qui avaient la kippa pleuraient. Et à la fin de la lecture, il leur a dit, celui dont parle Ésaïe, c'est Yeshua. Et ils pleuraient tous. Ils pleuraient tous. Et ce commandant de compagnie est venu le dire aux parents, ce qui a été pour eux une grande source de consolation. Alors bien sûr, rien n'est gagné. Les combats reprennent, mais l'Église est là et elle a besoin de notre soutien dans la prière. Gloire à Dieu. C'est sur cette base-là que je voudrais ce matin m'arrêter avec un verset avec vous dans l'Écriture. Je vais prendre un peu d'eau. Dans Jean chapitre 16. L'Église est parfois dispersée. L'Église est parfois secouée. Vous vous rappelez que Jésus a dit à Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. De toutes parts, dans tous les pays, dans tous les lieux, l'Église parfois est malmenée. Elle connaît des difficultés de l'extérieur, elle connaît des difficultés de l'intérieur. Mais celui qui bâtit l'Église, ça reste Jésus-Christ. Et si elle paraît à nos yeux bien fragile, entre les mains du Seigneur, elle est bien solide. Et rien ne peut nuire à l'Église du Seigneur, parce que c'est lui qui en est le maître. Alléluia. Et parfois, l'Église peut connaître les croyants des difficultés. Elles peuvent prendre des visages très différents, soit qu'on est sur un continent ou un autre, soit qu'on est dans un pays ou dans un autre, dans une situation ou dans une autre. Mais dans toutes ces difficultés, je voudrais quand même nous rappeler à tous ce matin que Jésus a dit qu'il l'avait non seulement vaincu, mais qu'il avait fait de nous aussi des vainqueurs. Alors on le lit ensemble, Jean 16, à partir du verset 31, pour qu'on prenne un peu le contexte. Il est écrit ceci. Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. » Je vous parlais du contexte de l'Église en Israël et en Cisjordanie, et je reconnais que parfois, ces croyants sont dispersés par ici ou par là. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans les territoires occupés, quelqu'un qui se donne à Jésus est obligé de partir ailleurs s'il ne veut pas être tué. Je me rappelle, il y a quelques années, avec mon épouse, quand nous y sommes allés, on passait avec le pasteur Maroun Raheb, pas loin d'un fossé, et il me disait en anglais, tu vois, la semaine dernière, on a trouvé deux jeunes filles qui s'étaient converties deux jours avant, là, égorgées. Excusez-moi d'être aussi direct dans l'expression, mais pour vous montrer quand même la réalité parfois qu'il y a dans certains endroits dans le monde. Cette réalité, parfois, on ne veut pas la regarder dans nos pays occidentaux parce qu'on trouve que c'est trop hard, c'est trop violent. Et pourtant, c'est une réalité par laquelle l'Église passe. Et c'est vrai que ça m'avait arrêté. Et ma femme m'avait dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, pas grand-chose. Et puis, on était allé à la réunion et on avait senti à la réunion une certaine tension. Ça, ma femme, elle l'a perçue, la tension. Elle m'a dit, ouh, ça fait peur. Et oui, parce que quand vous êtes confronté à ce genre de réalité, non seulement l'Église est quand même impactée, parce qu'il y a de l'attachement, parce qu'on connaît les gens, et puis en même temps, il y a de la crainte d'être les prochains sur la liste. Et c'est là qu'on se rend compte que, oui, il y a des chrétiens qui étaient à Gaza. Aujourd'hui, il n'y a que quelques chrétiens catholiques à Gaza, mais il n'y a plus d'évangéliques à Gaza. Ils ont tous émigré dans les autres villes. J'en ai rencontré certains, parce qu'ils n'ont pas eu le choix. À partir du moment où on donne notre vie à Jésus, il faut partir de l'endroit où on est ou de l'endroit où on nous connaît. Sinon, c'est notre vie qui est en danger. Vous avez remarqué dans le récit que nous avons lu ce matin, Jésus parle d'une heure qui vient. Et dans cette heure qui vient, il associe au fait qu'ils seront dispersés. Alors, je ne sais pas comment vous réfléchissez un petit peu la mission, mais je voudrais ce matin associer la persécution à la mission. Nous, on aime entendre parler de la mission. On aime entendre parler de l'évangile qui est annoncé, des enfants dont on s'occupe sur le terrain. On aime parler des orphelinats, des pouponnières, des dispensaires. On aime parler des écoles chrétiennes qui œuvrent à l'étranger, qui permettent aux enfants d'avoir un contact avec l'évangile. Et c'est bien tout ça. Mais je remarque dans la Bible que la mission est souvent associée à la persécution. Ou encore, la persécution est associée à la mission. Dissocier les deux, à mon sens, serait sortir du contexte de l'Écriture. Et quand Jésus parle et dit « L'heure vient où vous serez dispersés », faut-il entendre que nous aussi, un jour ou l'autre, peut-être, à cause de notre foi, nous pouvons être dispersés? Écoutez dans le langage biblique ce que ça veut dire. Ce verbe « disperser » veut dire « éparpiller », « terroriser », « fuir dans toutes les directions ». Vous vous rappelez avec moi que Jésus avait dit dans Matthieu 10, « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. » C'est ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il a dit. « Je vous le dis, en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. » J'arrête ma réflexion un instant là. Je remarque, en parcourant les évangiles et en m'interrogeant, que cette heure dont parle Jésus est une heure qui ne correspond pas aux 24 heures que nous connaissons quand nous parlons d'une heure dans nos 24 heures. Mais il est question d'une période au sens le plus large. Quand Jésus est arrêté dans le jardin de Gethsémané, l'Écriture dit dans Marc chapitre 14, tous l'abandonnèrent. Comme pour appuyer le fait, tous se sont dispersés. Tous ont fui et ont laissé le Seigneur seul. On se rappelle de ce jeune homme qui on a enlevé le vêtement dont il s'était ceint et qui va partir tout nu. Et honte à lui. Mais tous l'ont abandonné. Je voudrais simplement ce matin que vous réfléchissiez un instant en disant, est-ce que vos difficultés, vos tribulations, vos moments difficiles pourraient vous amener à vous disperser quant à votre foi? À vous amener à fuir vous aussi? La persécution, comme les tribulations, je vous le disais tout à l'heure, ont des visages très différents. Vous pouvez connaître vous aussi, à Aubagne et dans les alentours, des moments difficiles, à cause de votre foi, sur votre lieu de travail, dans votre propre famille, avec vos propres enfants ou vos propres parents. Connaître une forme de difficulté qui pourrait vous amener à être dans la fuite, à vous disperser, à être terrorisé. Combien même dans notre pays ont été jetés de leur maison dehors ou se sont entendus dire « tu as trahi la religion de tes pères ». Vous voyez bien que dans des formes très différentes, nous pouvons connaître bien des difficultés. Et Jésus a dit « l'heure vient ». Elle est venue à partir du moment où elle s'est mise en place, où elle s'est mise en route à partir du moment où il a été arrêté, mais ça ne s'arrête pas là. Après son enlèvement, alors qu'il laisse les disciples, que Les anges les invitent à retourner à Jérusalem et d'attendre la promesse. L'Écriture dit dans Matthieu 16, verset 28, que Jésus va dire, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Je suis interrogé quand même. C'est quoi la venue de Jésus dans son règne? Vous allez me dire, mais c'est quand il va revenir? Ça serait un peu précipité que d'aller jusque-là. Je pense que le règne nous évoque le royaume de Dieu. Et pour moi, le royaume de Dieu, il a commencé à venir, à régner dans la vie des gens et des hommes à partir du moment où le Saint-Esprit est descendu dans Actes 2. Et vous remarquerez avec moi qu'à partir du moment où ils sont remplis du Saint-Esprit dans Actes 2, qu'un bruit se fait entendre, que la foule vient, que 3000 se convertissent, les problèmes vont arriver. Les difficultés vont surgir. Et Jésus avait dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu venir le Fils de l'homme dans son règne. Je crois de tout mon cœur que l'allusion à son règne fait référence au moment où ils sont revêtus du Saint-Esprit, où ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. D'ailleurs, à mes yeux, l'Église naît ce jour-là dans la chambre haute, revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Et quelque part, d'une certaine manière, ces persécutions s'achèveront pour eux au moment, en tout cas pour eux de la part des Juifs, au moment où Jérusalem tombera en 70 après Jésus-Christ. Elle prendra d'autres formes plus tard, au travers de la diaspora, partout où ils seront. Mais en tout cas, il est question là d'un règne qui va être établi au sein de l'Église par le Saint-Esprit dans la vie des croyants, des cœurs. Mais ce règne-là n'exclura pas le fait de connaître la persécution. C'est ce que nous trouvons dans les Écritures. Et remarquez avec moi que quand vous parcourez Matthieu 24 ou Luc 21, vous vous retrouvez dans des chapitres qui nous parlent de signes concernant le jour du Seigneur, qui vont les précéder. Jésus a tout dit, il n'a rien caché, et il a dit la chose suivante. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors ceux qui seront en Judée, fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem sortent et que ceux qui sont dans les champs n'entrent pas dans la ville. Amen. Jésus n'a rien caché. Les disciples, dès le départ, étaient avertis. Ils allaient connaître des moments difficiles, vivre la dispersion, la fuite, l'opposition, les difficultés. Mais il fallait qu'au milieu de tout cela, la mission se complisse, se fasse. 388 millions de chrétiens persécutés violemment dans le monde. Je ne parle pas de brimades, de moqueries. Je parle de persécutions violentes. Quand vous lisez les textes de l'Écriture où on jette Paul en prison, je vous assure que le verbe « jeter » dans le littéral met bien en évidence la violence avec laquelle on l'a poussé d'entre ces quatre murs. Le contexte des prisons de l'époque n'a rien à voir avec le contexte des prisons que nous connaissons aujourd'hui. Et ce qu'ils ont connu était très violent. Mais je veux vous dire que dans le monde entier, il y a des frères et sœurs qui connaissent tout autant de violence encore aujourd'hui. Et qu'ont-ils fait de mal? Rien, si ce n'est qu'ils croient dans la personne de Jésus. C'est notre responsabilité à tous, non seulement de penser à eux, de prier pour eux, mais de les soutenir. Mais tout en se rappelant que si ces souffrances sont imposées à nos frères et sœurs dans le monde entier, nous avons certainement autour de nous des hommes, des femmes, des frères, des sœurs, des amis, des bien-aimés qui passent aussi par des moments de souffrance. Et on a besoin d'une certaine solidarité entre nous. Regardez ce que dit Jésus. Vous aurez des tribulations. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, ça s'accomplit. Vous aurez des tribulations. Il leur annonce des temps difficiles. Notez la nuance de tribulation, des temps difficiles faits de souffrance. Pas avoir un moment difficile parce que, au niveau de l'argent, ça ne rentre pas comme ça devait rentrer, on a des problèmes avec la banque, ça c'est des temps difficiles. Mais des temps difficiles faits de souffrance, quand même un niveau un peu plus supérieur dans le langage biblique. C'est des difficultés en tout genre. Et quand je vous disais tout à l'heure que la Pentecôte, la mission est associée à la persécution, mettez deux versets en face l'un de l'autre. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins, martyrs. à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 8, 1, vous inversez juste les chiffres. Il y eut une grande persécution. Une grande visitation, un revêtement de puissance, l'autorité du ciel dans la vie des enfants de Dieu. Et à côté de cela, une grande persécution. Il y a de quoi fuir humainement parlant. Mais Jésus nous a avertis à tous, vous aurez des tribulations. Et je pourrais vous interroger de la manière suivante, connaissez-vous des difficultés vous aussi ce matin? Avez-vous des problèmes, des difficultés? Est-ce que votre foi est malmenée? Est-ce que quelque part, parfois, ça vous arrive aussi de réfléchir et de dire, mais je vais tout arrêter, c'est trop difficile, j'ai des problèmes depuis que je viens à l'église. Ben, c'est normal. Le contraire, peut-être, mériterait que nous nous arrêtions et que nous réfléchissions. La vie chrétienne est faite de problèmes, de difficultés en tout genre. Mais ce n'est pas parce que nous avons des difficultés que nous sommes abandonnés. Ce n'est pas parce que parfois nous pleurons que nous sommes délaissés du Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes abattus à certains moments que tout est fini dans nos vies. Nous avons un Dieu toujours présent, capable de nous aider. Et quand bien même à nos yeux, ça semble impossible, notre Dieu est capable toujours aujourd'hui, selon ce que Joseph a exprimé à ses frères, de changer le mal en bien. Vous pouvez dire amen de temps en temps si vous êtes d'accord. Hein. Dieu est capable de changer le mal en bien. J'en ai rencontré tellement des frères et des sœurs comme ça. Quand vous êtes à côté d'une maman qui a perdu son fils de 22 ans le 7 octobre, et qu'elle vous raconte qu'à la réunion où il y a des formes de réunion de groupe, de thérapie, ils sont là une centaine, et à un moment donné, celui qui avait la charge de cette réunion dit « Quels sont ceux qui consultent des psychiatres, des psychologues suite au 7 octobre ?» Toutes les mains se lèvent, sauf la sienne. Tous les regards se tournent sur elle. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « Moi, mon psychologue, mon psychiatre, c'est Yeshua, c'est Jésus. » Et ça marque. Parce que ces hommes, ces femmes qui sont autour d'elle sont tout aussi marquées qu'elle. Mais cette femme, quand elle nous parlait, ça a attiré mon respect, ma compassion. Je dis quand même, comment moi, je réagirais? Est-ce que j'aurais le réflexe qu'elle a eu, l'attitude qu'elle a eue? Vous aurez des tribulations. Vous aurez des moments difficiles. Mais sachez que ces mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. C'est ce que dit l'apôtre Pierre. Alors peut-être que vous allez me dire, ça ne me console pas de savoir ça. Pour relativiser comme moi, mais rappelez-vous qu'il y en a qui souffrent plus que vous, c'est vrai. Pour relativiser peut-être ce par quoi vous passez et dire, mais Seigneur, en fait, c'est vrai. Ma vie, je veux te l'offrir sur l'autel et te dire, Seigneur, si tu as été capable de consoler une femme qui a perdu son fils, son aîné, son premier, celui qui faisait sa joie, sa fierté. Alors à plus forte raison, tu es capable ce matin de m'aider, de me secourir d'une manière miraculeuse. Tu as dit qu'on aurait des tribulations et peut-être même tu as dit au Seigneur, pourquoi ? Et le Seigneur te rappelle ce matin, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur est avec nous, il est au milieu de nous. Et être un enfant de Dieu ne nous épargne pas des souffrances. Mais nous pouvons réaffirmer ce matin que Dieu reste le même pour sécher nos larmes et nous aider à faire un pas de plus avec lui. J'aime quand Jésus disait « à chaque jour suffit sa peine ». Il n'a pas dit « à chaque jour suffit son labeur », mais il a dit « à chaque jour suffit sa peine ». Quand j'étais en formation, mon formateur me disait « tu m'as fait pleurer ». Tu pleureras beaucoup. Je n'ai jamais autant pleuré que depuis que je suis pasteur. Je dis, purée, je suis devenu Madeleine Sologne. Mais c'est vrai que dans la vie chrétienne, on pleure. Qui n'a jamais pleuré ici? Eh bien, venez me voir que je puisse vous demander les recettes. Parfois, on pleure. On ne comprend pas toujours. On ne voit pas la raison pour laquelle ces choses nous atteignent. Les tribulations sont des choses qui sont difficiles à accepter parfois. On n'est pas né pour souffrir, on n'est pas maso. On n'a pas envie de dire, Seigneur, vas-y, tu peux y aller. Je suis prêt à endurer, à supporter, je suis prêt à pleurer, je suis prêt. Non, non, on a dit Seigneur, surtout pas moi. Mais quand ça vient dans nos vies, quand ça frappe à nos cœurs, et que quelque part on est une victime dans la situation, on dit Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait pour subir ça ? Rien. Et Dieu ne fait pas de reproche sur ce terrain-là. Mais il a dit, vous aurez des tribulations. Et dans ces tribulations, le défi qui nous est lancé, c'est de le glorifier à lui. Et comment je vais le glorifier ? Entendez ce que dit Jésus en suivant. Prenez courage. Prenez courage. Est-ce que vous pouvez l'entendre ça ce matin ? Non pas de ma bouche, mais de ce que Jésus a pu dire. Être persécuté ne veut pas dire être arrêté dans notre marche avec Dieu. Connaître des tribulations ne veut pas dire que pour nous, il y a un gros stop. Non. Ça peut arriver parfois, mais par sa grâce, qui nous est tout aussi suffisante que pour l'apôtre Paul, nous pouvons continuer d'avancer. Prends courage. Vous savez, cette expression, prendre courage, ça veut dire avoir du courage, mais ça veut aussi dire avoir confiance. Si nous avons foi en Dieu que quand tout va bien, quelle est réellement l'expression de notre foi ? Mais si avoir foi en Dieu est quelque chose qui est là dans nos vies, alors que nous passons par le creuset ou par la vallée de l'ombre de la mort, alors cette foi qui est épurée par ces moments-là, elle ressort glorieuse, victorieuse. Je me rappelle du pasteur Denisou qui disait dans une convention que la foi qui est la nôtre ne passe pas 24 heures sans défaillir. Et j'avais trouvé à l'époque, à Châteauroux, j'avais dit, mais il exagère le frère. Et puis en y réfléchissant, j'ai dit, c'est vrai. Se passe pas 24 heures dans nos vies sans qu'à un moment donné, notre foi montre de la faiblesse. Et je comprends que dans certaines situations très pratiques, les disciples ont pu dire au Seigneur, augmente-nous la foi. Avoir confiance en Dieu quand tout va mal. Prenez l'exemple avec moi de l'apôtre Paul. Il est arrêté à Jérusalem. Il est là en train de dire à ceux de sa nation qu'il est en train d'être mis, de comparaître devant eux parce qu'il croit dans la résurrection. Il annonce Jésus et le tribun vient lui sauver la vie. Il est mis à part dans la forteresse et certainement que sa foi est malmenée à ce moment-là. Sinon, pour quelle raison ? Au milieu de la nuit, le Seigneur lui apparaît. Quand Jésus est dans Gethsémané, un ange du Seigneur vient le fortifier pour accomplir la mission. Quand il est dans cette prison, Paul, le Seigneur vient et lui apparaît, parce que certainement il se pose toutes sortes de questions. Et le Seigneur lui dit, de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage de moi à Rome. Prends courage. Prends courage. Mon frère, ma sœur ou église d'Aubagne, prenez courage. Parce que ce n'est pas la fin. Il y a encore un chemin à parcourir, il y a encore des choses à vivre, il y a encore de belles expériences à vivre, au milieu des larmes, au milieu des difficultés. Rien n'est facile dans l'œuvre de Dieu, mais nous avons un Dieu qui continue de bâtir et qui, s'adressant à nos vies, à nos cœurs, continue de dire « Prends courage ». Je voudrais vous encourager par ce texte de l'Écriture qu'il y a dans Actes 8. Je vous parlais tout à l'heure que ça commence par « Il y eut une grande persécution », mais juste avant, Étienne a été lapidé, il est mort. Et l'Écriture nous montre que les chrétiens, au verset 5, se dispersèrent dans la Judée et dans la Samarie. N'est-ce pas ce qu'il avait dit ? L'heure vient où vous serez dispersés. C'est l'heure où ils sont dispersés, mais c'est le moment où la mission va rentrer dans sa plénitude. Ils rendent témoignage de la bonne nouvelle. Des hommes et des femmes goûtent combien Dieu est bon. Et puis il y a le témoignage de Philippe qui descend dans une ville de Samarie et qui prêche le Christ. Il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des démons qui sortent des personnes avec un grand bruit. Et l'Écriture dit qu'il y eut dans la ville une grande joie. Je ne sais pas si vous aimez les détails, mais ça commence par une grande persécution et ça termine par une grande joie. Notre Dieu est fidèle. Et s'il ne nous a pas dit que le chemin serait facile, il a promis d'être avec nous et de travailler avec nous pour que son œuvre continue de se faire. jamais, comme sur le terrain où l'Église est persécutée, l'Église ne connaît une telle croissance. C'est sur ce terrain de la persécution que nous voyons le plus de conversions. À Cuba, nous avons eu des milliers de baptêmes cette année. L'Église a augmenté en 10 ans de 500%. On augmente de 500%, nous ? Vous vous rendez compte, si vous augmentez de 500% en 10 ans ici, vous allez avoir un problème de local. Hein? 500%. En 7 mois en Inde, dans le Gujarat, où ils sont persécutés, arrêtés encore aujourd'hui, conduits au poste de police, et les pasteurs sont frappés. Je pourrais vous montrer des images tout aussi choquantes les unes que les autres. 3000 baptêmes en 6 mois. Jamais comme sur le terrain où l'Église est persécutée, nous ne voyons la grâce de Dieu. Et même dans un moment où les chrétiens ont été mis sous une tente par des hindous parce qu'ils voulaient leur faire la peau, un tourbillon est venu sur ce chapiteau. On ne voit sur la vidéo aucun vent autour sur les arbres, juste sur le chapiteau. Ce chapiteau est enlevé en l'air, tombé à terre, et les chrétiens sont partis sains et saufs. Jamais, comme sur le terrain de l'Église persécutée, on a vu Dieu donner du courage à son peuple. Me rappelle de cet endroit au Gujarat où je suis allé, et un frère qui était là a voulu me raconter son témoignage. Alors je l'ai écouté. Il avait été mordu par un cobra. Il appelle son pastor, le pasteur Sambalone, et lui dit « Viens m'imposer les mains, sinon je vais mourir. » Et le pasteur lui dit « Écoute, prends courage, tu vas faire ce que je te dis. » C'est facile, hein ? Il y a une heure de route, hein ? Si le temps que j'arrive, tu es mort. Donc, prends courage, tu vas faire ce que je te dis. Tu vas aller chercher de l'huile, tu vas te faire l'onction d'huile et tu vas crier au Seigneur. Et moi, en raccrochant, je vais me mettre à genoux devant mon lit et je vais prier, je vais prier. Et qu'est-ce qu'il fait ? D'accord, pasteur, il raccroche. Alors, on n'est pas dans le cadre de Jacques V. Là, hein. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, oui, mais là, le temps qu'ils arrivent, il est mort. Comment on fait ? Alors, il a cherché autour de lui. Mais de l'huile en Inde, si vous êtes allé en Inde, ce n'est pas évident d'en trouver. Hein. Mais à côté de chez lui, il y avait un garage. Il y avait de l'huile de vidange usagée dans un bidon. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris l'huile de vidange usagée, il se l'est versée toute sur la tête. Et il a crié à Jésus. Mais en criant au Seigneur, il a été instantanément guéri. Les effets qu'il commençait à sentir dans son corps se sont automatiquement arrêtés. Dieu l'avait guéri. Je l'avais en face de moi, il me racontait ça. Au milieu de la persécution, de l'oppression, des difficultés, mes frères et mes sœurs, vous avez un Dieu qui agit d'une manière miraculeuse. Notre Dieu, c'est le Dieu des miracles. Et je pourrais dire à quelqu'un ce matin, mais à plus forte raison dans ta vie, prends courage, parce que notre Dieu n'a pas changé. Il est toujours capable d'œuvrer d'une manière extraordinaire. Par contre, sur le terrain de la persécution, ce qui fait la force des chrétiens, ce n'est pas qu'ils sont meilleurs que nous, ce n'est pas qu'ils sont plus spirituels que nous, c'est que, comme l'apôtre Paul, ils ne font aucun cas de leur vie comme si elle leur était précieuse. Ils l'ont donnée au Seigneur. Et pourvu qu'ils continuent d'accomplir avec joie la course dans laquelle ils étaient engagés et de faire l'œuvre pour laquelle ils avaient été sauvés, à savoir témoigner de la bonne nouvelle autour d'eux, n'importe quel prix qu'il fallait payer, ils le payent. D'ailleurs, en Inde, quand ils se font baptiser, on leur demande la question, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus ? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort à la croix pour toi, qu'il a payé le prix pour tes péchés ? Oui. Est-ce que tu t'engages à le suivre, à le servir, même si tu dois mourir ? S'ils disent non, ils ne sont pas baptisés. Mais s'ils disent oui, ils savent que l'instant d'après, c'est peut-être leur instant à eux. Et l'engagement qu'ils prennent prend toute sa force. Et je vous pose la question ce matin. Quand vous avez pris l'engagement par les eaux du baptême, avez-vous pris l'engagement en disant, Seigneur, dans la vie comme jusque dans la mort, je veux te rester fidèle, je veux avoir confiance en toi jusqu'au bout. Alors si peut-être ce matin, quelques-uns sont venus découragés, reprenez courage. Faites un peu comme David quand il est arrivé à Tsiklag et que tout avait été enlevé, sa famille, ses enfants, ses biens. Il va reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel.
Reprenez courage en vous appuyant sur le Seigneur. C'est une parole de Jésus qui dit, prends courage et confiance et du courage. La foi génère du courage dans nos vies et dans nos cœurs. Et on a besoin de se le rappeler. Mais je veux terminer comme cela. Jésus amène une proclamation glorieuse. Il dit, j'ai vaincu le monde. Ce n'est pas nous, hein. Nous, on n'est pas des... On est petit, on est faible, on est prévisible. Mais Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Il est le vainqueur. Il parle en vainqueur. Il ne parle pas comme quelqu'un qui va assouvir quelque chose, faire quelque chose d'assez particulier. Il dit, je suis le vainqueur. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu tous mes ennemis. On peut citer le péché, on peut citer la mort, on peut citer le diable, les démons, mais on peut citer aussi la tentation. Il a été vainqueur dans Matthieu 4, Luc 4, des tentations du diable, de ces moments où il a été comme mis à l'extrémité. Il dit, j'ai vaincu le monde. Et notre vie a été donnée non pas à quelqu'un qui serait là peut-être vainqueur, non, il est le vainqueur. Et il nous fait toujours triompher avec lui, nous rappelle l'Écriture. C'est la raison pour laquelle ce matin, cette grande victoire qu'il nous a acquis ne pourrait nous laisser indifférents les uns les autres. Et nous avons besoin de laisser cette parole venir dans nos cœurs résonner comme un cri de victoire. La victoire qui triomphe du monde à nous, c'est notre foi dans la personne de Jésus, notre foi dans la parole de Jésus, notre foi dans l'œuvre du Christ à la croix du calvaire. C'est le cri de triomphe que pousse l'Église persécutée, mais c'est le cri de triomphe que les croyants poussent dans n'importe quelle situation, quelle que soit l'issue de notre combat. Seigneur, nous avons confiance en toi. Seigneur, nous croyons en toi. Seigneur, nous nous appuyons sur toi. Parce que notre Dieu est celui qui se lèvera le dernier. C'est lui qui aura le dernier mot. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons nous rappeler. Parce que la victoire qui nous a acquise ne fait pas simplement de nous des conquérants par la foi, mais fait de nous des personnes qui ont la victoire. C'est matérialisé par le fait de gagner la victoire. On n'est pas dans l'à peu près avec Dieu. On gagne la victoire. Elle nous est acquise. Quand l'apôtre Paul dit « Rien ne nous séparera de l'amour de Christ, ni la persécution, ni les tribulations, ni la faim, ni la nudité, rien. » Walou, comme dit Loulou, nada, nothing en anglais, rien du tout. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Parce que Paul affirmera que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. C'est la dimension dans laquelle il nous a fait entrer. On est victorieux en Jésus-Christ. Ce n'est pas un chant, même si nous le chantons avec vérité. Ce n'est pas un slogan. C'est une réalité spirituelle dans laquelle nous entrons par la foi. Seigneur nous fait triompher. Il nous permet d'aller de l'avant les uns et les autres. Alors ce matin, je voudrais m'adresser à quelqu'un en particulier. Voudrais-tu peut-être te ressaisir? En pensant non seulement à ceux qui sont au loin et dans la souffrance, et en réalisant que dans ta vie à toi, oui, le Seigneur pourrait ce matin aussi te dire, prends courage, relève la tête, mets ta foi en moi et reçois ce matin ce dont tu as besoin. On va courber nos fronts quelques instants, s'il vous plaît, se tenir quelques instants dans la prière et donner l'occasion à quelqu'un, peut-être en réfléchissant, de dire, Seigneur, cette parole, elle est pour moi. J'ai des difficultés. Je pleure souvent, j'en perds le sommeil, je ne sais pas comment m'en sortir, je ne sais pas ce que va être ma vie. Mais Jésus dit, prends courage. Jésus t'invite à avoir foi, Jésus t'invite à oser la foi. Et ce matin, dans ce moment, dans ce culte, on pourrait peut-être élever nos voix. Et ceux et celles qui le souhaiteraient se lever à leur place simplement pour dire, Seigneur, me voici devant toi, je veux oser la foi. Seigneur, j'entends cette parole et en me levant, je prends courage.